pris conscience de l'importance de cette religion, notamment dans l'armée française, qui est l'armée qui utilise le plus grand nombre de soldats musulmans. Et très vite, pour assurer aussi la fidélité de ces soldats, on prend des mesures en leur faveur. La première, je dirais la principale, qui arrive très vite, dès l'automne 1914, c'est de prévoir des modalités spécifiques d'inhumation en direction de la Mecque, avec une stèle très spécifique pour marquer la tombe des tirailleurs musulmans qui morts au combat, alors même que les Juifs qui réclament pour avoir également des stèles spécifiques devront attendre 1916 pour qu'on les enterre pas sous des croix. Enfin, pour l'armée française. Et
Et pourquoi ces
donc,
mesures?
du
Parce
coup,
qu'il y
on
avait
tient.
une sorte de crainte, l'islam étant considéré comme une religion suspecte?
Alors, c'est pas tant l'islam qui pouvait passer pour une religion suspecte que le fait que l'Empire ottoman, à partir de novembre 1914, rejoint les empires centraux. Et le sultan déclare le djihad contre la France et ses alliés, enfin contre les pays de l'Entente. Et du coup, on a eu très peur, enfin on a eu peur, très peur c'est peut-être un petit peu excessif, on a eu peur dans les pays de l'Entente que les populations musulmanes eh bien, se retournent contre le colonisateur. Et donc, on a fait quelques gestes en faveur des tirailleurs musulmans et en faveur de l'islam. En 1915 et 1916, la France organise pour les élites algériennes des pèlerinages à la Mecque. Et de l'autre côté, les Allemands ont un camp de prisonniers réservé aux tirailleurs musulmans à Zossen. Et là, il y a une propagande énorme qui est faite auprès des prisonniers pour qu'ils rejoignent l'armée ottomane. Ça a été un flop complet. Je crois qu'il y a eu à peine 200 tirailleurs qui ont rejoint l'armée ottomane. Et en fait, ils ne l'ont même pas fait par idéal. Ils l'ont fait en pensant qu'ils pourraient sortir plus vite du camp de prisonniers. Voilà. Et c'est... Mais il y a une vraie propagande. Également, en France, on s'inquiète aussi parce qu'il y a un ancien officier qui rédige, alors qui a été ensuite débauché par les services allemands, qui rédige une brochure pour dénoncer la manière dont la France traite l'islam dans son armée, disant il n'y a pas d'aumônier musulman, les rites alimentaires sont pas respectés. Alors, ça, c'était variable selon les régiments, selon les circonstances. Et donc, cette petite brochure a aussi inquiété un peu l'armée française.
Xavier Boniface, j'aimerais maintenant vous faire entendre ceci.
Les Allemands envahissent la Belgique pour contourner les défenses françaises et attaquer Paris. Les Britanniques interviennent et arrivent à Mons le 23 août 14 pour bloquer l'avancée allemande. Mais les Britanniques sont trois fois moins nombreux que les Allemands autour de Mons. En toute logique, ils auraient dû se faire décimer. Pourtant, ils ont pu s'échapper miraculeusement.
Seraient apparus dans le ciel des anges sous forme d'archers qui auraient repoussé les armées allemandes, fait une sorte de couloir et permis donc aux Britanniques de se replier.
Est-ce que vous connaissiez, Xavier Boniface, cette histoire d'anges?
Oui, je peux vous en raconter plein d'autres du même style, et dans toutes les armées et dans tous les pays. La Vierge qui arrête les Allemands à la bataille de la Marne. En Russie, on a la même chose en 1915, je crois, à la bataille d'Augusto Novo, où la Vierge aurait également arrêté les Allemands. Enfin, il y a des variantes. Hein. Même pour Mons, certains ont parlé de Saint-Georges. C'est intéressant aussi ce type d'histoire, c'est qu'il y a des tas de variantes. Où je peux aussi vous parler du calvaire de je crois que c'est de Saverne, où en fait il y a un calvaire qui était bombardé et le calvaire a été détruit, mais le Christ est resté les bras en croix, tenant par un bout de ferraille. Et il y en a plein encore d'autres. Dans Picardie aussi, la statue de la Vierge qui était au sommet d'une église, la basilique d'Albert, qui s'est retrouvée inclinée à 90 degrés pendant quasiment toute la guerre. Voilà, ces prodiges, enfin, c'est ce qu'on appelle c'est un peu ces prodiges, relèvent d'une religiosité de guerre où on est à l'écoute, où on est plus susceptible d'entendre toutes sortes de rumeurs, de mythes. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vision collective de ces anges. L'histoire circule après, évidemment, après coup. Je crois que l'origine, enfin, certains historiens ont essayé de retracer un peu l'origine de cette affaire, en voyant quelques semaines après dans la presse des références à cet événement prodigieux au sens étymologique du terme. Je vais reprendre une expression de l'historienne Annette Becker qui disait que la guerre, c'est l'extraordinaire. En deux mots, on sort de l'ordinaire dans la guerre. Et donc, à partir de ce moment-là, on est prêt à voir, à accepter, à reconnaître la présence d'un extraordinaire, en un seul mot, dans les combats et dans la vie en guerre. Voilà, donc je pense qu'il faut le remettre comme ça en perspective. Ça intéresse beaucoup l'anthropologie historique. Comment ce type de rumeur a pu se répandre dans les armées et perdurer d'ailleurs très longtemps après.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Il est l'auteur de La révolte des élites, un essai qui a suscité pas mal de réactions dans les années 90. Coup de projecteur sur les idées du grand intellectuel américain Christopher Lash. C'est dans quelques minutes avec le rédacteur en chef du Philosophie Magazine. Mais d'abord, les religions et la grande guerre, suite et fin de notre entretien avec vous, Xavier Boniface. Je rappelle que vous êtes historien à l'université de Picardie en France. Est-ce que les atrocités de la grande guerre n'ont pas déclenché, provoqué un refus de croire en Dieu, Dieu qui laisse faire la guerre, qui la légitime aussi? Qu'en était-il, Xavier Boniface?
Voilà, c'est une question très compliquée sur laquelle je pense que les historiens vont encore travailler très longuement. Dans un premier temps, on a parlé de réveil religieux parce que justement, devant l'horreur de la guerre, devant la crainte qu'elle suscite, devant les séparations, on se retourne vers Dieu, on se raccroche à Dieu ou à ses intermédiaires, à ses intercesseurs. Plus profondément, et après la guerre, la religion est un vecteur du culte des morts. Les vitraux à la mémoire des morts, les monuments aux morts dans les églises, dans les temples, hein, en plus des monuments aux morts civils, montrent bien comment la religion va permettre de surmonter, de transcender la guerre. Ça, c'est, je pense, le court et le moyen terme. Sur le très long terme, je m'interroge, mais il faudrait le voir aussi avec l'impact de la Seconde Guerre mondiale, l'implication des religions dans la guerre peut-être a-t-elle eu des effets sur le très long terme de remise en cause. Pas nécessairement des populations, des sociétés qui ont vécu la guerre, mais sur le long terme. Je m'interroge sur le grand moment de déchristianisation depuis les années 60, si ce n'est pas à l'ombre portée de la guerre. Mais ça, c'est une hypothèse que je voudrais pouvoir approfondir. J'en ai absolument pas assez d'éléments pour conforter ou infirmer cette hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, au contraire, la guerre amène un renforcement de la pratique religieuse.
Ça veut dire que le processus de laïcisation qui était en cours avant la guerre, que la tendance qui était à la sécularisation de la société a été mise entre parenthèses pendant quelques années après la guerre?
Alors, mise entre parenthèses, c'est peut-être le terme peut-être un peu fort, mais il y a eu effectivement un peu un retour, presque un retour de balancier après cette... cette vague de déchristianisation que sécularisation. Sécularisation, c'est plus comment les sociétés perdent leurs références religieuses. La déchristianisation, c'est l'éloignement par rapport à la pratique religieuse. Et en même temps, la guerre fait prendre conscience aux clergés, et aux croyants, enfin aux militants plus exactement, de l'état justement de la déchristianisation. Et il y a plein d'initiatives pastorales dans l'entre-deux-guerres, commencé par les JEC, fondés par un prêtre belge, l'abbé Cardjean, qui sont nés d'intuitions liées à la guerre. Les prêtres mobilisés, qui voyaient peu d'hommes dans leurs églises avant la guerre, c'est une pratique religieuse féminine, à quelques exceptions près, découvrent toute une population qui ne fréquentait pas les églises. Et du coup, ça les amène à s'interroger sur les moyens qu'il faut utiliser, mettre en œuvre, les moyens pastoraux, pour aller vers cette population éloignée de l'Église. Voilà, donc je pense qu'il y a la réaction immédiate dans les années 20, c'est plutôt un effort prononcé en matière de pastorale.
Et est-ce que pendant la guerre, il existait des mouvements d'athées militants, par exemple, Xavier Boniface?
Alors, il y a dû y avoir, on n'en a pas beaucoup, on a très peu de traces. L'athéisme militant se fait peu entendre au cours de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est, bon, se dit, il y avait déjà des associations d'athées avant le conflit. Il y a des athées qui sont restés militants tout au cours de la guerre. Mais j'ai plutôt l'impression que cet athéisme militant s'est affaibli, ou du moins a été peu visible durant cette période. Le soldat qui est sur le front, à Verdun ou à Ypres, il se pose des questions sur la vie, la mort, sur l'au-delà. Mmh. Donc l'athéisme militant est peut-être plus prudent. Mmh.
Une question concernant le pardon qui est au cœur des religions. Comment est-ce que la question du pardon a été gérée après la Grande Guerre, Xavier Boniface ?
Très difficilement. C'était très très difficile. C'est là où on mesure l'impact, l'imprégnation patriotique des sociétés, mmh, et des croyants. Je crois que c'est une rencontre protestante internationale vers 1920 où les délégués français et belges disent, on saluera les Allemands que le jour où ils reconnaîtront leur responsabilité dans le gâchement de la guerre. Mmh. Ça commençait assez mal, cette rencontre. Je pourrais même prendre l'exemple de 1914 où, lors de l'élection du pape Benoît XV, on est fin août, début septembre 1914, ouverture du conclave, le cardinal von Hartmann, qui était l'archevêque de Cologne, dit « J'espère que nous ne parlons pas de la guerre ». Le cardinal Mercier le coupe aussitôt en disant « J'espère bien que si ». Et finalement, ils ont élu un pape, non pas en fonction de ses positions sur la guerre, mais en fonction d'autres. Oui, alors il faut vraiment attendre le milieu des années 20 pour que les choses commencent à s'améliorer. Et en particulier en France, il y a quelqu'un comme Marc Sangnier, qui est un fondateur du Sillon, mouvement démocrate chrétien, il va rapprocher l'Église à la démocratie, et qui organise à partir de 1926 le grand congrès de jeunes dans sa propriété de Bierville, avec des Français, des Allemands, des Belges, des Italiens, etc., vraiment des congrès internationaux, pour justement permettre un peu cette réconciliation. Alors, il y pense très tôt, Marc Sangnier, à cette réconciliation, dès le début des années 20. Je crois qu'il réussit à inviter un prêtre allemand en 1923 ou 1924 à venir en France, mais c'est quand même très lent et très difficile. Mais après, je pense que certaines organisations chrétiennes ont joué un rôle non négligeable en la matière, mais il a fallu du temps pour ne serait-ce que faire passer cette idée de pardon dans l'opinion publique.
Merci Xavier Boniface d'avoir été avec nous en ce jour du centenaire de l'armistice. Vous êtes historien à l'université de Picardie à Amiens, auteur du livre « Histoire religieuse de la Grande Guerre » et puis vous avez dirigé avec la complicité de François Cochet l'ouvrage collectif « Foi, religion et sacré dans la Grande Guerre ». Merci beaucoup et bon après-midi.
Au revoir.
Et Dieu dans tout ça.
Sur la première.
Et c'est notre grand dictionnaire des philosophies des religions que nous ouvrons. Martin Legros est avec nous. Bonjour Martin.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le rédacteur en chef du Philosophie Magazine. À la une de votre numéro de novembre, cette question: avons-nous besoin des élites? Et ce dimanche, vous allez nous dresser le portrait de la pensée de quelqu'un qui était un critique des élites. C'est l'intellectuel américain Christopher Lasch. Qui était-il?
Oui, Christopher Lasch est un sociologue et historien américain très intéressant. Il est né en 1932 et mort en 1994, inspiré par l'école de Francfort, mais aussi par des auteurs comme Emerson ou Thomas Paine, ce qu'on appelle le républicanisme américain, qui s'inquiète en réalité de la crise de la culture politique américaine, où les grands idéaux démocratiques du citoyen autonome et indépendant qui délibère en commun avec ses concitoyens est miné par le progrès du capitalisme et la culture du multiculturalisme. Il a écrit des essais assez intéressants sur le narcissisme contemporain, la manière dont l'individu se replie dans un climat de compétition sur lui-même, mais dans une très grande fragilité, mais aussi sur le multiculturalisme, sur la manière dont tout était mis sur un pied d'égalité, où les individus étaient enfermés dans leur communauté, où la culture se réduisait à une somme de préférences personnelles sur lesquelles on ne discute plus. C'est un auteur iconoclaste, je dirais, intéressant parce qu'il est à la fois un égalitariste qui s'inquiète de l'explosion très très tôt dans les années 90 des inégalités, mais aussi un penseur qui défend une forme de populisme, mais pas le populisme au sens où on l'entend aujourd'hui, le populisme de la vie ordinaire, des petits gens, des petits peuples américains, qui a le sens de la loyauté, du travail bien fait, de l'engagement civique, et c'est la raison pour laquelle il est en partie récupéré aujourd'hui par tout un courant réactionnaire d'ailleurs. Mais son grand livre, c'est un livre prémonitoire, c'est son testament politique qui est publié en 1995, c'est La révolte des élites ou la trahison de la démocratie.
Oui, et justement, Martin, quelle est la thèse qu'il défendait dans ce livre, Christopher Lasch ?
Alors, la révolte des élites fait référence à l'idée, il soutient que tout au long du XXe siècle, la menace principale, la menace politique qui était dans tous les esprits à travers le fascisme ou le communisme, c'était la révolte des masses qui allait faire exploser l'ordre social bourgeois. Et qu'il dit à l'inverse, de nos jours, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il semble que la menace principale parvienne non pas des masses, mais de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Une nouvelle élite, diagnostique lâche, c'était il y a 20 ans déjà, mondialisée, qui a su se projeter sur le marché mondial, qui cultive un esprit cosmopolite, multiculturel, relativiste, qui ne croit plus vraiment dans les valeurs de l'Occident, et qui a laissé sur le carreau le peuple, l'Amérique du milieu, qui a le sentiment d'être non seulement abandonnée par cette élite qui s'est projetée sur le marché mondial, mais méprisée parce qu'elle cultive, elle encore, les valeurs de la famille, du patriotisme ou de la religion. Et on a vu cette élite se confirmer, mais lâche très très tôt, diagnostique une sorte de sécession culturelle entre cette élite et le peuple. Et cette élite, elle utilise des moyens, des concepts abstraits, c'est les valeurs de la bourse ou les images de Hollywood, c'est manipule l'information, son sort est lié à des entreprises internationales et non plus à des allégeances nationales, et elle vit dans un monde un peu d'artifice et d'artificiel où les simulations de la réalité l'emportent sur la réalité. Et face à cette nouvelle élite, on a un autre monde, le monde des masses qui ont perdu tout intérêt, dit Lâche, pour la révolution, qui sont attachés à des valeurs traditionnelles et qui sont prêts même, dit-il, face à cet abandon, qui se targue avec un sens raffiné de la provocation, dit Lâche, de l'étiquette de racisme contre ceux qui veulent faire du racisme et des droits des minorités le seul sujet de débat public, au lieu d'affronter les questions comme les inégalités sociales. On voit là poindre très tôt tout ce qui a été l'ingrédient des élections de Donald Trump ou du Brexit, avec ce peuple qui se révolte contre des élites qui l'ont abandonné. Et on aurait certainement apprécié d'avoir l'avis de Lâche sur la manière dont la révolte des élites s'était transformée en révolte contre les élites, mais le remède, en tout cas, que préconisait Lâche, ce n'était certainement pas un populisme raciste et fascisant, comme on le voit aux États-Unis, dans certains pays de l'Europe ou au Brésil aujourd'hui, mais c'était ce qu'il appelait renouer avec les arts de la citoyenneté, l'art de la controverse, du débat, du conflit argumenté, mais aussi de l'engagement civique, où on accepte où les fidèles d'un groupe acceptent de se débattre et de se confronter avec les arguments réellement de l'autre, au lieu d'intimider ou d'en rester à un esprit de simple ouverture d'esprit et de tolérance qui vire en réalité à l'indifférence. Lâche appelait à un esprit, à une capacité du citoyen de discriminer entre le mensonge et la vérité, entre les vraies grandes œuvres et les grandes actions et la mode et le toc. Il en appelait à un réveil démocratique contre ce clivage pernicieux qui s'était instauré entre des élites cosmopolites détachées et des masses apathiques. On aurait besoin d'un Lâche aujourd'hui pour relancer l'interrogation. C'est ce que nous avons essayé de faire dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, en demandant à des esprits proches de Lâche comment est-ce qu'ils voient les évolutions de l'esprit public contemporain.
Avons-nous besoin des élites? C'est la question, donc, en une de ce numéro du mois de novembre du Philosophie Magazine. Merci à vous, Martin Legros, et bon dimanche.
Merci, Pascal Claude.
C'était Dieu dans tout ça, merci d'avoir été là. Si vous souhaitez réécouter ou partager ce numéro, rendez-vous quand vous le souhaitez sur notre plateforme Ovio. Les infos de 14h sont à suivre dans très peu de temps, juste après c'est les classiques du dimanche avec Nicolas Blanmont. Passez une belle après-midi.
On pourrait parler d'une guerre à dimension religieuse, même si elle n'est pas une guerre de religion.